Il fait nuit, et sous son bonnet, sous son col relevé, on s'isole du monde. Allez, ça a les 5 minutes, le temps de retourner à la voiture et de gratter éventuellement. C'est pas encore l'heure d'ailleurs de gratter. On est en plein mois de décembre, mais c'est pas parce qu'on est en décembre qu'on va pas avoir de la joie dans le cerveau, du soleil dans le cœur. On y va, c'est cool, on enfile son café et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 8 décembre 2022 et tout va bien. Aujourd'hui, pour attaquer cette matinale du pire reste à venir, eh bien, nous allons recevoir Sophie de l'association Trait d'Union. On y reviendra dans un instant, bien entendu. Nous irons faire un tour du côté de notre ami Ben Herbert Larue. On l'aura au téléphone au bout d'un moment. Nous retrouverons dans cette matinale la chronique de Martine Bourg, et puis de la joie, de la bonne humeur, de la musique. Ben voilà, c'est là-dessus qu'on part, hein, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
HDL.
Les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Radio Principal Actif.
Alors écoute, 99.1
HDR
et 102.4 FM.
Radio Principal Actif.
Du bon son, de la bonne humeur et des bons plans.
Le pire reste à venir.
Et je vous le disais, nous recevons aujourd'hui l'association Trait d'Union et plus directement Sophie Berger. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, je vous remercie.
Bon, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. On s'était dit qu'on allait parler médiation familiale, qu'on allait parler de l'association Trait d'Union, qu'on retrouve surtout le département, quasiment, si j'ai bien tout saisi.
Hein. Oui, absolument.
C'est 6 antennes.
Oui, tout à fait.
C'est ça, 6 antennes. Louviers, Trépanny, Les Andelys, Gisors, Vernon,
tout à fait.
Évreux.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et puis, vous verrez durant cette émission, quand nous parlerons un petit peu du sujet, au cœur du sujet de la médiation familiale, bien entendu, on devrait en retrouver sur Rouen, on va en retrouver dans le sud du département de l'Eure, on en retrouve à d'autres endroits, et ça va être le cœur de notre sujet. L'association Trait d'Union, c'est une vieille association, non ?
C'est une association qui a quelques années déjà, mais qui fait partie aussi de l'association Les Fontaines, qui, elle, date de 1955.
Voilà, un savoir-faire, on va dire, sur le nombre des années, en tout cas. Eh bien, on va s'installer là, on parlera médiation familiale. En deux mots, c'est quoi la médiation familiale, avant qu'on rentre un peu plus tard dans le cœur du sujet?
En fait, la médiation familiale, c'est une démarche qui consiste à renouer le dialogue, à retrouver un lien familial entre des personnes qui sont en conflit. Depuis un certain temps, donc ça s'adresse effectivement à des couples qui sont séparés ou qui sont en voie de séparation. Ça s'adresse à des grands-parents qui voient plus leurs petits-enfants. Ça s'adresse à des ados avec leurs parents. Ça s'adresse à des fratries qui sont dans des problèmes successoriaux.
Donc, en fait, ça s'adresse, c'est une tierce personne qui va donc être en médiation entre les parties pour essayer de que ça aille mieux finalement.
Absolument. Nous, notre rôle, c'est de les accompagner pour qu'ils puissent communiquer mieux et qu'ils puissent renouer le dialogue et qu'ils puissent trouver des solutions, trouver des accords par rapport à leur problématique et surtout dans l'intérêt de l'enfant, hein, parce que dans la majorité des cas, c'est quand même des couples séparés qu'on rencontre.
Très bien, et ben on aura l'occasion d'y revenir tout au long de cette émission, d'en discuter. Mais pour vous mettre sur les rails, un premier morceau histoire de pour les derniers qui n'étaient pas encore réveillés, qui étaient entre le café et puis je sais pas, puis le cerveau bien en place. Je vous propose un premier morceau histoire de vous mettre dans l'ambiance et c'est Wolfpack.
«
not in your stomach, I'm not in the ground, not in a limousine, cruising around town. I'm not a bug, not quite a germ, I'm a humble, catchy melody, I'm a earworm, and it go. Couple of tunes. Don't take requests. No, fly me to the moon. It's gotta be simple. Got no time for rehearsal. How about that jingle from that jewelry commercial? Doc said it's common. Doc said it's fine. Doc, reassure him, I'm totally benign. 'Cause when you search, if you're losing your mind, just remember earworms got to survive, and it go out. I'm not deep, got nothing to prove, just in here singing that earworm blues. Move out to the country and get away from it all. Find a new ear and start singing along, everybody.
Il est l'or, l'or de se réveiller.
Le bien reste à venir.
Le bien reste à venir.
De 8h à 9h.
De 8h à 9h. 8h
à 9h. Sur HDR et Principe Actif.
Ouais, salut la matinale.
Hi, Principe Actif.
Bonjour.
C'est moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
Ah là, il était mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Ben oui, mais ce matin, on n'a pas de message. Vous nous avez rien laissé comme petite intention, vous avez dit, envoyez-nous des poèmes. On aime ça, nous, les poèmes, le matin. Ça nous met de bonne humeur. Envoyez-nous de vos nouvelles. Envoyez-nous les bons plans, les informations qu'il y a sur nos régions, nos territoires. Dites-nous ce qui se passe ce soir à Rouen. Dites-nous ce qui se passera ce week-end sur Évreux. Dites-nous ce qui aurait pu se passer tel ou tel jour ou à tel moment. Dites-nous ce qui se passera sur le sud du département de l'Eure. Dites-nous tout, appelez-nous. Ou éventuellement, poussez un coup de gueule, je sais pas, souhaitez l'anniversaire à mamie. Ça, vous nous le faites pas souvent, hein, souhaiter l'anniversaire à mamie, et pourtant, hein. Enfin bon, n'hésitez pas à nous laisser un message sur notre répondeur au 02 32 62 57 32. Je vous l'avais dit sur le générique, sur l'introduction, le jeudi, c'est le jour où nous retrouvons Martine Bourg, notre autrice, illustratrice du coin. Eh bien, nous propose aujourd'hui encore un petit module, voilà, je vous laisse découvrir.
Les pingouins. Bon matin, les pingouins.
Mais où il est, mon cheval? Mais où il est, mon cheval? Mais où il est, mon cheval? Mais où il est, mon cheval?
Toilette. Sabot vernis, crin démêlé, bien bouchonné, me suis roulé dans le fumier.
cru.
Ma cravache? Ah, je l'ai perdue. Où est ma bombe? Je ne sais plus. Mes éperons ont disparu. Ma selle? Ah, je l'ai oubliée avec mes deux étriers. La bride? Ah, je ne l'ai pas trouvée. Ah, le problème est résolu, je vais monter à cru, tout nu.
Voilà, de bon matin les pingouins de Martine Bourg que nous retrouvons tous les jeudis matins pour notre plus grand plaisir. Je le disais, nous sommes avec Sophie Berger de l'association Trait d'Union, 6 antennes sur le département et ça fait de la médiation familiale principalement. Moi je voulais revenir un petit peu, quand on parle de médiation familiale, qui fait de la médiation familiale? Est-ce qu'il y a des diplômes de médiateurs familiaux? Est-ce qu'il y a une expérience? Est-ce qu'il y a... Comment ça se passe pour devenir médiateur familial? Qui sont ces médiateurs familiales?
Ben, les médiateurs, on a un diplôme d'État, on est formé, hein, on a un diplôme d'État de médiation familiale pour pouvoir faire la médiation et travailler en partenariat avec la CAF, parce que c'est notre principal...
prescripteur peut-être
Prescripteur, oui, mais qui nous finance. Mais on peut aussi faire de la médiation familiale sans être diplômé. Donc, alors maintenant, qui sont-ils? Vous avez des éducateurs spécialisés, mais il peut y avoir des psychologues, ce que je suis aussi. Mais il peut y avoir d'autres, des formations très diverses et variées. Hein.
C'est en fait l'objet dans ces médiations familiales, c'est quoi? C'est de trancher dans une décision, c'est de trouver un consensus, c'est renvoyer. Comment ça se passe en fait? C'est quoi l'objet finalement de cette médiation?
C'est d'abord apaiser. D'abord apaiser le climat qu'il peut y avoir entre deux personnes. Et donc ils viennent en entretien individuel. Où on entretien à deux. D'abord, on entretien individuel, parce que pour
s'il y a besoin de médiation, rencontrer... c'est qu'a priori les échanges sont difficiles.
Les échanges sont difficiles, voire rompus. Il peut y avoir la communication peut être rompue. Hein. Donc, il s'agit de faire en sorte qu'ils puissent se rencontrer à nouveau pour les personnes qui ne se sont pas vues depuis un certain temps. Si je parle des couples parentaux, par exemple, qui sont en conflit, qui n'arrivent plus du tout à parler, qui n'arrivent plus même à se voir. Hein. Donc là, on les invite à se retrouver lors d'un entretien de séance, se retrouver tous les deux pour pouvoir rediscuter, se re-rencontrer. Donc, ça peut être assez dense émotionnellement parce que c'est difficile pour eux de se retrouver.
Alors, il y a cet enjeu de remettre l'échange, la discussion. Oui. Mais comme je le disais, est-ce qu'au bout d'un moment, dans cette médiation familiale, il y a, je sais pas, une prise de position, un fonctionnement qui serait de l'ordre de trancher, justement? Parce que quand on dit médiation, oui. Jusqu'où va la médiation? Est-ce que ça va jusqu'à un accord ou pas?
Alors, nous, on tranche pas. Certainement, on n'a pas de pouvoir de décision, hein, du tout. On accompagne. Et on fait en sorte qu'ils puissent se comprendre, déjà. C'est un gros travail. Et de favoriser le dialogue, et de favoriser à nouveau la communication, et de favoriser l'émergence de solutions. Nous, on pense qu'ils sont tout à fait capables de trouver des solutions par eux-mêmes. C'est eux qui connaissent leurs enfants. Hein. Je vous rappelle que la médiation, c'est quand même dans l'intérêt de l'enfant. Et de pouvoir donc trouver des solutions, de trouver des accords. Ça peut être des accords oraux, mais ça peut être aussi des accords écrits. Qui peuvent être d'ailleurs homologués par le juge d'affaires familiales. Parce que il y a deux types de médiation.
Oui, alors c'est ça justement, quand on parle conflits parentaux et quand il y a des enfants, parce que souvent c'est quand il y a des enfants hein, que les questions de médiation interviennent. Justement, est-ce qu'au bout d'un moment, passer par la médiation, c'est préparatoire au jugement? Est-ce que c'est successif au jugement? Enfin, comment ça se passe? Est-ce que ce sont deux parcours différents ou est-ce que c'est le début, la fin d'un parcours? Comment ça fonctionne?
Mais la médiation, elle peut intervenir à tout moment. Si ce sont des médiations judiciaires, donc envoyées par les juges aux affaires familiales, qui nous envoient les personnes qui sont en conflit. Ça peut être tout à fait en amont d'une audience, après une audience, avant un jugement, après un jugement. Hein, donc c'est, la médiation peut intervenir à n'importe quel moment. L'important, c'est que ce soit le bon moment pour les parents.
C'est ça, c'est à partir du moment où il faut le décider quand même, mine de rien. Est-ce qu'on peut être obligé à une médiation? Ça, alors, par exemple, c'est un truc tout bête, est-ce qu'on peut nous obliger à être...
C'est une question cruciale, parce qu'effectivement, c'est une démarche volontaire. Les personnes qui sont en médiation sont volontaires. Hein. Donc là, on parle de médiation judiciaire, donc c'est le juge d'affaires familiales va faire des ordonnances ou faire des injonctions en fonction du degré d'importance du conflit. Mais c'est une démarche volontaire quand même de la part des personnes, est-ce qu'ils veulent ou pas. Et lorsqu'il y a des médiations conventionnelles, c'est-à-dire des médiations qui sont spontanément demandées par les personnes concernées, y en a une qui va venir, qui va demander à ce que l'autre puisse venir en médiation. Si elle veut, très bien, et si elle ne veut pas, on ne peut pas faire la médiation.
C'est essentiel que, chacun y participe. Sinon, de toute façon, on ne peut pas déboucher sur un compromis ou quoi que ce soit.
C'est ça, absolument. Sur des accords qui impliquent des concessions de chacun.
Alors, quand on parle de médiation, vous l'avez dit plusieurs fois, c'est toujours avec, quand on parle de médiation familiale, avec l'enfant au centre de la préoccupation. Oui. Comment on détermine ce qu'on appellerait le bien de l'enfant, en fait, enfin le mieux de l'enfant, parce que c'est pas forcément évident de décider quasi pour l'enfant et ou en tout cas de poser des décisions pour le bien de quelqu'un d'autre, surtout quand on est en conflit avec l'autre interlocuteur. Comment on détermine ce bien de l'enfant? Comment il se mesure ou comment on vient le pointer?
Déjà qu'il soit pas au cœur du conflit. Et qu'il soit pas, on parlait d'instrumentalisation, il peut être instrumentalisé malgré les parents, ne serait-ce que passer par l'enfant pour envoyer un message à l'autre parent est déjà une instrumentalisation, est déjà une manipulation. Donc déjà de faire en sorte que l'enfant ne soit pas au cœur, parce qu'il est en conflit de loyauté constamment, il ne doit pas être obligé de choisir l'un ou l'autre. Hein, ça, c'est vraiment crucial.
C'est par exemple se dire, dans le cas d'un conflit parental, ça pourrait être, le bien de mon enfant, je considère que c'est, je sais pas moi, qui voit l'autre parent que un certain temps. Et puis je dis, pour moi, le bien, c'est ça. Et comment on détermine quand il y a deux visions qui viennent s'opposer finalement?
Absolument.
Et les deux pourraient avoir comme objectif le bien de l'enfant, en fait, en toute sincérité.
Exactement. Donc ils peuvent être en total désaccord par rapport à l'éducation de l'enfant, par exemple.
Par exemple.
Le choix d'un médecin, le choix d'une opération chirurgicale, le choix d'une école. Et ils peuvent être en opposition radicale. Donc pour moi, ils ont tous les deux raison, même s'ils sont en désaccord. Nous, en tant que médiateurs, on ne prend pas parti. Hein, bien entendu, ils doivent se sentir soutenus par le médiateur, quoi qu'il arrive. Donc, on fait en sorte qu'ils puissent en discuter. Et donc, la première chose qu'ils font, c'est de prendre position et de défendre leur point de vue. Ça, c'est important qu'ils puissent entendre chacun leur point de vue, mais qu'ils fassent en sorte de comprendre que ils n'ont pas le même point de vue, donc il va falloir faire des concessions. Donc, qu'est-ce que je fais si j'ai envie que mon enfant soit dans cette école et toi dans l'autre? Vous êtes face à cette contrainte, qu'est-ce que vous faites?
Et c'est là où la médiation intervient, qui fait émerger. Oui. Alors du coup, comment ça se passe? J'ai presque envie de dire techniquement, une médiation, c'est... Parce que là, l'exemple est parlant, un parent veut que soit telle école, l'autre parent telle autre école. Finalement, personne n'a raison, personne n'a tort, ce sont des points de vue. C'est quoi les ficelles, les méthodes en fait? C'est on trouve l'école entre deux? C'est une troisième école?
Ça peut être ça, bien sûr. Je vais les inviter à approfondir leur point de vue. Qu'est-ce qui, pour vous, qu'est-ce qui est important? C'est quoi l'avantage d'être dans cette école et pour vous? Et ça peut, de faire parler un maximum les personnes, chacune des personnes, de manière à ce que chacun découvre la motivation de l'autre. Parce qu'en fait, s'ils sont là, c'est qu'ils ne peuvent pas aller jusque-là. Ils vont s'arrêter au point de vue de l'autre et à défendre son point de vue, mais ils vont absolument pas écouter. Donc moi, je permets à ce qu'ils écoutent. Et ils découvrent, chaque parent découvre que la motivation des uns et des autres, de l'un ou de l'autre, ils n'en savaient rien. Hein. Donc déjà ça va permettre de faire évoluer leur réflexion.
C'est ça, c'est amener les arguments clairement sur la table. Peut-être aussi désamorcer les enjeux, parce que parfois les enjeux, c'est juste d'avoir eu raison à la fin. Enfin, sur un conflit, c'est juste d'avoir... Ça paraît peut-être bête ce que je dis, mais
c'est
j'ai gagné une bataille. Ça peut être ça aussi, les enjeux.
Alors, c'est la raison pour laquelle il y a un entretien d'information au départ. C'est-à-dire qu'on leur... d'abord, ça leur permet de rencontrer le médiateur et surtout de comprendre ce que c'est que la médiation. Évidemment, ils vont essayer de créer une alliance avec le médiateur. Il s'agit là de dire, vous avez, vous, raison, sachez que votre ex-conjoint ou conjointe a raison aussi. Donc, sachez que dans la médiation, qu'est-ce que vous allez pouvoir... vous allez devoir changer quelque chose chez vous. Vous n'allez pas changer l'autre. Vous allez essayer de changer quelque chose chez vous pour que, pour que la dynamique revienne et soit nouvelle. Donc... on leur dit qu'il faut réapprendre à communiquer.
C'est sûr. Alors c'est pas si simple que ça finalement d'apprendre à communiquer.
Surtout quand on est en conflit.
Ben oui, c'est ça. C'est parce qu'on veut gagner en fait. Il y a cette notion là quand même qui intervient. C'est moi qui aurai le dernier mot quoi.
Alors dans la médiation, on fixe un cadre qui est avec des règles de communication qui sont très claires, à savoir. Je vais communiquer avec l'autre dans le respect de l'autre. Je vais parler en mon nom. Je vais ne pas juger. Je vais pas faire pression sur l'autre. Donc, il y a des règles qui sont très claires qu'on explique pendant cet entretien d'information. Et on leur fait signer d'ailleurs
une charte de l'échange, finalement,
voilà,
c'est ça?
Voilà, exactement, pour qu'ils puissent se dire, OK, je m'engage à rentrer dans cet état d'esprit et dans ce cadre de la médiation. Le cadre de la médiation exclut toute violence, quelle qu'elle soit, physique, bien sûr, et psychologique. Donc, si c'est pas respecté, on peut être amené à suspendre une médiation parce que les personnes ne sont pas capables de rentrer dans ce cadre-là.
Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est un cadre qui pourrait valoir pour tout échange avec qui que ce soit, en fait, ce que vous dites.
Hein.
On exclut la violence, on ne juge pas, on parle en son propre nom. Ça ressemble clairement à un fonctionnement qu'on pourrait utiliser au quotidien.
Au quotidien.
Bon, c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne, les échanges entre les humains.
C'est difficile, au quotidien. Donc.
Mais ce qui est pas évident, ça demande du temps, en fait, de faire de la médiation, parce que là, vous nous expliquez un peu la méthode, mais c'est est-ce que finalement, en une demi-heure de discussion, une fois que les règles ont été données, c'est réglé?
Non, pas du tout.
On fait un suivi sur 15 ans.
Non. Alors, en fait, on va dire entre 3-4 séances en moyenne, hein, mais il peut y avoir, après, en fonction du conflit, en fonction des accords à mettre en place, ça peut durer 8-10 séances. Ce sont des séances qui durent en général 1h30, de 1h30 à 2h, mais ça passe très vite. Hein, les personnes sont impressionnées par la durée, mais ils voient que ça passe très vite, hein, parce que dès qu'on rentre en discussion, on a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à découvrir de l'autre.
Ça doit être hyper éprouvant quand même. Enfin, j'imagine quand on est en conflit, se retrouver face à l'objet du conflit pour trouver un accord sur 1h30 ou 2h. Je sais pas, comme ça, naturellement, j'aurais envie de dire, mais c'est épuisant en fait comme séance, non?
Ils sortent en général assez fatigués.
Et ça peut être fatigant.
Oui, ça peut être fatigant aussi. Nous, c'est notre métier, donc on arrive à prendre de la distance, mais on est aussi formé régulièrement. On a les médiateurs suivent des groupes d'analyse de pratique, hein, pour prendre de la distance et comprendre ce qui se passe dans une médiation et qu'est-ce qui peut rentrer en résonance chez nous-mêmes. Hein.
J'aurais presque envie de dire, enfin, vous êtes psychologue de formation, sur la médiation, est-ce que finalement, quand il y a de l'échange comme ça sur le conflit, il faut savoir séparer de ce qui est du message annoncé, enfin, du message énoncé même, des enjeux, en fait, qui sont pas dits, en fait. Parce qu'il y a cette notion-là, sur un conflit, parfois, c'est pas le réel argument qui est avancé, on avance à couvert. Enfin, il y a ce côté-là,
bien entendu,
le conflit.
Bien entendu. C'est ce qui est exprimé est le symptôme d'autre chose. Quand qu'une personne refuse une modalité de garde alternée ou refuse de faire tel trajet ou refuse en fait, le refus montre plein d'autres choses qui n'ont pas été dites. Très souvent, les personnes qui sont séparées n'ont pas pu discuter de leur séparation, n'ont pas parlé, hein, ni entre eux, ni entre parents, mais même pas avec les enfants. Hein, c'est l'occasion de pouvoir en discuter et de pouvoir faire émerger d'autres choses qui n'ont pas été dites, où le conflit peut
C'est ça, parce que des fois, il se situe à un autre niveau que celui qui est officiellement déclaré.
Bien entendu.
Quand on discute de l'école, je reprends l'exemple de l'école.
Bien sûr.
Je veux telle école, toi tu veux telle autre école. En fait, peut-être le conflit n'est pas réellement sur l'école. Finalement, c'est que le prétexte.
C'est le prétexte.
À quelque chose en dessous. Alors, on peut essayer de résoudre le problème de l'école, mais finalement, on va le retrouver sur, vous évoquiez le choix du médecin, sur le choix de mode de garde, sur le... Et en fait, on va le retrouver à chacune des étapes parce que le réel conflit, en fait, la réelle problématique est...
Et
déguisé,
et
voilà,
et déguisé
parfois sur ces enjeux de pouvoir. Finalement, cette médiation familiale, est-ce qu'on peut comparer ça à de la thérapie de famille ou je sais pas, enfin comment est-ce qu'on peut appeler, mais
alors on va...
sur les termes, je suis pas très fort. Hein,
oui, mais on va pas parler de thérapie, hein, parce que la médiation, elle est orientée vers le futur et vers des accords. Des accords oraux ou...
C'est l'objectif de la médiation.
L'intention, c'est déjà d'apaiser, parce que les personnes viennent pour exprimer un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, on leur pose la question au départ. Hein, c'est quoi vos attentes? Qu'est-ce que vous souhaitez traiter comme sujet? Nous, on ne décide pas de ce qu'ils doivent traiter. Hein. On s'occupe du processus hein, et de les accompagner dans leurs échanges. Mais en aucun cas, on ne choisit ce qu'ils veulent dire. On leur explique tout ça. Donc, quand ils arrivent avec des contenus. Ils ont déjà à se mettre d'accord sur les différents contenus. Mais c'est pas une thérapie parce qu'on n'est pas du tout dans l'écoute interprétative et on ne cherche pas à parler obligatoirement du passé. On y est de temps en temps amené. Hein,
parce que bah, ne serait-ce que pour comprendre les éléments du présent et
exactement,
du futur, quoi. Ça paraît évident.
Oui, tout à fait. Mais ça peut être très concret aussi. Hein, c'est de trouver des solutions. Comment on fait parce que il y a quand même des familles recomposées, recomposées, donc ça peut être très compliqué l'organisation.
Oui, ça peut être du conflit sur le parce que là on évoquait les séparations, mais c'est sur la réorganisation d'un nouveau foyer par exemple.
Bien sûr.
Peut faire appel à de la médiation. Il y a pas de décision de justice parce que c'est pour le bien-être du nouveau foyer et ça peut nécessiter médiation justement.
Voilà, pour trouver des solutions, comment on s'organise, les horaires, ça peut être.
Bah, comprendre l'autre. Alors, est-ce qu'on est aussi sur, pas de l'organisation, on va dire, statutaire, mais de l'appréhension? Est-ce que là, on évoquait une recomposition familiale, j'ai des conflits avec, je sais pas,
le beau-père,
la belle-mère. Finalement, il n'y a pas besoin d'avoir de décision de quoi que ce soit derrière, ni de contractualisation de quoi que ce soit, mais il y a une problématique.
Exactement.
Est-ce que ça rentre aussi là dans la médiation, de se dire, on va recevoir tout le monde et puis on va discuter. Derrière, il n'y aura pas de décision ni juridique, ni statutaire, ni de contrat, mais c'est pour le mieux du foyer. Ça fonctionne aussi.
Bien sûr, pour clarifier les rôles de chacun. C'est très compliqué hein, d'être belle-mère ou beau-père. Hein. Très très compliqué parce que c'est pas le parent, mais en même temps, il est là tout le temps. Hein. Quand les couples se sont recomposés, c'est compliqué. Puis les couples se sont recomposés avec d'autres personnes qui sont eux-mêmes parents d'une première union. Donc ou d'une deuxième union. Donc ça complexifie les relations et les positions de chacun, leur rôle.
Et là, la médiation peut aussi intervenir, j'ai envie de dire, sur des éléments non juridiques ou non, voilà, qui est juste sur le bien-être.
Exactement.
Vous évoquiez tout à l'heure que vous travaillez avec la CAF. La CAF est connue aussi pour organiser, pour intervenir et faciliter les vies des foyers, tout simplement.
Oui.
On sait qu'ils interviennent aussi sur de la médiation soit eux en direct, soit comme ils font avec Trait d'Union, c'est-à-dire je suis en train de chercher le mot en prescription,
oui,
c'est ça qu'on dit. Voilà, ça fonctionne sur prescription, c'est-à-dire que la CAF renvoie vers vous éventuellement.
Entre autres, mais ça peut être aussi.
Le tribunal aussi,
pour
renvoyer vers vous.
Et puis,
est-ce qu'on peut solliciter directement Trait d'Union?
On
évoquait par exemple là, sur une recomposition, c'est pas le juge qui statue une recomposition familiale. C'est pas la CAF non plus qui fonctionne sur une recomposition, mais ils peuvent quand même solliciter directement Trait d'Union.
C'est ça. Oui. Dès qu'il y a un désaccord, dès qu'ils veulent trouver une solution, ils peuvent solliciter un médiateur.
Ils peuvent solliciter un médiateur
et sans passer par le juge.
Et sans passer par rien du tout. On y reviendra dans un instant sur Trait d'Union avec Sophie Berger. Hein, on va poursuivre la discussion, bien entendu. Mais j'avais envie de vous proposer une pause musicale et puis dans la foulée appeler notre copain Ben Herbert Larue pour prendre de ses nouvelles parce que ça a pas mal bossé dernièrement. On va y revenir dans un instant. Et puis bon, on avait calé d'échanger avec lui au téléphone. Je vous propose extrait de son nouvel album qui est sorti il y a 2 semaines précisément. L'album s'appelle Souffle, le titre Frère.
Je me sens bien dans leur silence. Je me sens bien dans leur boucan. Ils crèvent les yeux de leur absence. Elles laissent la marque de leur instant. C'est la fleur du fusil, c'est l'étoile du sapin. Les copains. Je me sens bien dans leur tendresse. Je me sens bien dans leur sauvagerie. C'est le remède à la tristesse. C'est la bière et la brasserie. C'est le bois de la gueule. C'est les rires assassins. Les copains. C'est de la sincérité en barre, dans l'amour comme dans la connerie. Jamais tout seul dans la bagarre, quand ils sont là ça suffit. Même, c'est pas des machines, ils ont leurs failles comme les autres. Ces faiblesses ça les rend beaux, ça les rend belles, je le sais. Ils prennent de mes nouvelles, même quand je leur en donne pas. Si tu savais le plaisir qu'on a à se jeter dans la gueule de bois. Tu comptes sur eux, qu'importe l'heure, qu'importe les moyens. Pour se moquer des peurs du quotidien, les copains. Les copains. Les copains. Les copains. Je me sens loin, là où j'écris. Je ne sens rien sans ma fratrie. Sans la main sur l'épaule, sans le coup de pied au cul, sans nos rires qui se frôlent, sans le temps suspendu, sans mes frangines, sans mes frangins. Les copains.
Frère, extrait de l'album Souffle, l'album tout frais Souffle de Ben Herbert Larue. Et nous sommes toujours d'ailleurs avec Sophie Berger de l'association Trait d'Union avec nous. Mais tout de suite, on avait dit qu'on appelait Ben. Salut Ben.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Bah écoute, de bon matin, ça va, je suis content de vous entendre.
Eh ben écoute, on est ravis aussi de t'avoir à nos micros. Qu'est-ce qui se passe de ton côté, là, à 8h30, à 8h33 précisément chez Ben? Est-ce que t'es devant ton choc à pic? Est-ce que t'es au café, au thé, ou ça fait 4 heures déjà que t'es levé? Comment ça se passe? Ou pas encore couché peut-être, hein?
Non, je viens de me lever, je viens de faire les tartines de petit déjeuner de mon fils. Et voilà, il est en train de manger sous mes yeux avant d'aller au collège pendant que je te parle.
Bon bah voilà, on aime bien savoir ce que font les gens hein, quand ouais. Quand on discute. Bah oui, bah on est au téléphone, on sait pas ce qui se passe en face. Hein. Ben, on te reçoit ce matin à la radio, ça fait plaisir. Ça fait un paquet de fois qu'on croise le micro ensemble. On suit les sorties, les nouveautés, et ce qui arrive. Là, il y a quelques jours, semaines maintenant, est sorti l'album Souffle, l'album solo. Alors en trio sur l'enregistrement, mais ce sont tes textes, tes écritures et puis. C'est de toi dont on écoute avec cet album Souffle. Un album particulièrement posé, j'ai trouvé. retrouver à l'écoute. Est-ce que c'est un ben, avec une poésie sage?
Je ne sais pas si c'est une poésie sage, mais en tout cas, c'est l'album, un album assez doux. Effectivement, j'ai voulu me tourner, j'ai voulu tourner ce disque, en tout cas dans la musique, dans le décor musical, autour de quelque chose d'assez doux et autour du soin. Donc on est là-dedans. Après, dans les textes, il y a des choses qui vont racler un peu plus l'intérieur et qui grattent un peu plus, qui vont chercher parfois du côté de la lumière, mais parfois du côté ce qu'on a un peu dans les questionnements qu'on a très très loin à l'intérieur de nous. Mais en tout cas, dans la forme, c'est sûr que c'est quelque chose qui est assez posé, ouais.
Alors c'est avec Xavier Milou et Nicolas Joseph Fabre, c'est ça? Je dis pas de bêtises, ouais, cet album, ça, principalement avec des invités quand même qu'on retrouve sur certains morceaux.
Mmh. Ouais, bah ouais, en fait cet album je l'ai écrit ces deux dernières années et demie dans ce monde qui a retenu sa respiration, hein. C'est entre autres pour ça qu'on l'a appelé Souffle, et pendant cette grande fin du monde... on va dire international, j'ai rencontré pas mal de gens, parce qu'on a eu besoin quand même de créer du lien, et dans ce besoin-là, j'ai rencontré pas mal de gens, des gens très inspirants, des gens qui m'ont touché, des gens qui ont des sensibilités vraiment, qui m'ont raconté des choses, donc ces gens, je les ai invités sur mon disque.
Alors ça aussi, c'est une des choses que tu fais régulièrement, c'est bosser avec d'autres gens. La semaine dernière, je crois d'ailleurs que tu étais même enfermé en collectif, c'est ça?
Ouais, la semaine dernière, je sors d'un labo, un labo d'écriture avec deux slameuses poétesses québécoises, et puis un slameur de Caen et une musicienne aussi du Calvados. On a fait un labo d'écriture, on s'est enfermé pendant une semaine, on est arrivé le lundi, on n'avait rien. Le samedi soir, on a fait un spectacle, et c'était super, c'était très riche. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais.
C'est la rencontre, c'est travailler avec différentes façons justement d'appréhender les mots, d'appréhender la musique. C'est toujours ce goût de l'échange en fait qui anime aussi le travail de création, non?
Bah en fait tout ça, je dis souvent ça, tout ça n'est qu'un grand prétexte en fait, notre métier. C'est un grand prétexte pour rencontrer du monde, passer des soirées, échanger, faire des interviews. Avec des gens cool, donc voilà, tout ça n'est qu'un vaste prétexte pour pas être tout seul et pour être avec des gens super, quoi, des belles beautés d'âme, des gens drôles et des gens qui nous apportent, avec qui on s'apporte mutuellement des choses.
C'est ça, c'est l'échange qui caractérise l'envie de créer. Justement, on l'entendait, là, on envoyait il y a un instant le titre Frère, que je trouve assez parlant de la rencontre, de l'échange et puis de ce qu'on vient trouver chez l'autre. Donc c'est extrait de cet album Souffle, c'était le morceau qu'on venait d'écouter. On retrouve aussi ton regard d'enfant. On avait diffusé lors de la sortie de l'album Je ne veux pas savoir, et là on retrouve aussi ce regard de presque de la naïveté poétique de l'enfant, quoi. Et ça aussi c'est une de tes pattes quand même, ce regard que tu poses sur le monde.
Ouais, c'est sûr. Alors moi j'ai un enfant intérieur qui est très fort, hein. Ça c'est un secret pour personne. Mais par contre cet album, c'est quand même un album, autant celui d'avant il s'appelait Au lendemain, il était vraiment question du grandir, de l'enfance, de la nostalgie de l'enfance. Cet album Souffle, c'est vraiment pour moi l'album de la mi-temps, là je vais avoir 40 ans, on est vraiment quelque chose, j'ai dit au revoir à cet enfant intérieur en disant voilà, tu es là, on n'est toujours pas très loin, mais maintenant je vais grandir, je suis un adulte. Et donc c'est plus un album de la mi-temps, je l'appelle l'album de la mi-temps, moi, l'album du second souffle. Voilà, c'est un album où je suis là où j'en suis, et maintenant je regarde d'où je viens, donc effectivement cet enfant est là, je regarde où j'en suis maintenant, est-ce que je prends ou je ne prends pas pour avancer pour la suite. Donc effectivement, cet enfant intérieur, il est encore là, mais quand même...
Beaucoup moins qu'il ne l'a été, effectivement, parce que quand je m'arrête deux secondes sur le morceau Je ne veux pas savoir, je crois que c'est un des seuls vraiment avec ce regard d'enfant, quoi. C'est le seul, je crois, enfin, hein, de
Il n'y a que lui-même dans la forme, ouais. mais en tout cas c'est sur une chanson que j'ai écrite en donnant pas mal d'ateliers d'écriture avec des enfants, où des enfants posent des questions assez... une poésie assez foudroyante, des questions dont on se pose nous aussi, par exemple dans Il fait beau, qui est il?
Oui.
À l'intérieur de ça, donc à partir de là, moi, ça m'a donné une envie d'écrire et d'aller chercher de toutes ces choses dont je me suis questionné dans la langue française, en fait.
Et puis, dans cette langue, elle est hyper touchante. Enfin, moi, j'ai été particulièrement touché par cette chanson, Le Chantier, qui rend hommage à nos vieux, finalement, mais avec une beauté de regard, j'ai trouvé.
Bah, c'est une chanson que j'ai écrite pendant le confinement, comme beaucoup, d'ailleurs. Et pendant le confinement, moi, j'ai deux vieux copains. J'aime bien les vieux, moi, en fait. J'aime bien boire des coups avec les vieux. Pour moi, c'est des grandes bibliothèques. Et j'ai deux copains qui ont profité du Covid pour se faire la malle sans dire au revoir à personne. Et ça m'a vraiment foutu les boules. Et j'ai pensé à tous ces gens qui étaient hyper isolés, hyper chez eux. Donc, j'ai voulu leur rendre hommage en écrivant cette chanson en disant « Ok, on est là, quoi. On est séparés, mais vous inquiétez pas, il y a des gens qui pensent à vous. » Voilà, donc ça s'appelle « Le Chantier ».
Sur, enfin, moi, je la trouve extrêmement belle. D'ailleurs, je me permettrai de l'envoyer après notre échange, sauf si tu as une meilleure idée. Mais moi, celle-là, je l'aime beaucoup, le chantier. Après, tu me dis, hein, si tu veux qu'on envoie autre chose.
C'est très bien, très bien.
Voilà. donc, oui, il y a une diversité, mais quand même quelque chose d'assez posé. Il y a eu le truc explosif. Moi, je reviens un petit peu, c'est au mois d'avril, quand tu as joué, et j'étais en salle. Avec le symphonique, voilà, un concert qui en explosait de partout. C'est des expériences très différentes entre un album finalement presque intime quand on l'écoute, et puis au mois d'avril dernier où tu étais avec une chorale, avec tout un orchestre, voilà, deux ambiances, mais finalement deux ambiances qui touchent. J'avais pas de question au bout de ça, mais je voulais revenir sur cette notion de, tu vois, d'avoir un orchestre derrière, et puis d'avoir une chorale. Moi, j'ai trouvé ça juste magnifique, et puis forcément touchant. Enfin, on peut pas en ressortir indemne de ça.
Non, c'est une de mes grandes expériences, de mes plus grandes expériences scéniques, parce que il y a toujours ce truc d'écrire des chansons tout seul chez soi, dans sa chambre, le soir, souvent avec un accordéon, un ukulélé ou juste un texte. Et là, tout à coup, de redécouvrir ces chansons avec 200 personnes derrière toi qui sont en train de jouer, c'est quand même vraiment incroyable. Et du coup, ces chansons, elles se sont racontées d'une certaine manière, mais qui sont effectivement vachement différentes de la manière dont elles se racontent maintenant, et où c'est très intime. Mais j'aime bien, moi, justement, ces chansons, leur donner différents costumes, alors des costumes très grandiloquents avec cet orchestre symphonique, ou des costumes plus intimistes et plus sensibles avec mon groupe. Et c'est ça que je trouve super, en fait, c'est qu'une chanson, elle peut exister de plein de manières différentes, et ça la nourrit, et ça nous nourrit aussi, nous, interprètes et auteurs de ces morceaux.
C'est ça, et alors ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, pour avoir écouté la formule album de Souffle, et puis avoir vu avec le symphonique et la chorale, c'est pas sur les mêmes cordes que ça vient jouer, sur les mêmes émotions, effectivement, mais ça marche des deux côtés, en fait, Ben. Ça marche des deux côtés.
Bah, c'est parfait, c'est très bien. En tout cas, voilà, moi, dans mes émotions, à moi, ça marche aussi des deux côtés.
Justement, là, le symphonique, en fait, parce que je parle d'un truc qui a été quand même assez d'exception, clairement, et toi-même, tu le disais, avec le symphonique. Il y a un morceau qui est sorti, disponible, notamment sur les réseaux sociaux, sur les plateformes. Est-ce qu'au bout d'un moment, on aura un concert complet, un truc complet, Ben?
Pas en vidéo, mais en album, ouais.
Ça bosse dessus. Ouais.
On se voit la semaine prochaine, justement, pour continuer de mixer cet album. Et il va sortir courant 2023 parce qu'on a, oui, il y avait quand même une batterie de micro dans cette salle pour qu'on puisse garder en souvenir cet incroyable moment.
Bah, c'est ce que je me disais, au bout d'un moment, on peut pas faire tout ça pour juste qu'il y ait... Quoique, il y a de la beauté dans la représentation éphémère qu'on retrouvera jamais. Mais il y a de la beauté dans l'enregistrement aussi.
Ouais, ce qui est rare est précieux. Mais en tout cas, là on a voulu photographier cet instant, c'est sûr.
À part au mois de mai, parce que j'ai vu que tu jouais à la Guinguette de Landelle, hein, c'est ça, au mois de mai, si j'ai bien tout suivi.
Ouais.
Alors ça aussi, c'est un endroit un peu improbable quand on passe de mois d'avril 2022 sur un cadran complet, machin, et puis la Guinguette de Landelle. Alors pour le coup, j'ai eu l'occasion de fréquenter l'endroit. C'est aussi le côté bucolique, hein, dans ces dates-là, et voilà, deux salles, deux ambiances, le côté bucolique, ça va être sympa aussi, j'imagine.
Ouais, moi j'adore ça, hein. Vraiment, j'adore les tout petits lieux, les cocons, les hamacs. Mon fils il dit souvent ça, c'est sale, cette salle on dirait un hamac. Voilà, et en même temps les très grandes salles, enfin voilà, c'est deux endroits, deux salles, deux ambiances exactement, mais où c'est la même histoire qui se raconte dans un décor différent, et du coup on voit comment cette histoire elle résonne différemment, et c'est ça qui est très chouette.
Donc du coup, oui, pardon, c'est pour aller au bout de ma question, c'était, bon, alors au mois de mai, j'ai vu que tu étais sur la guinguette de Landelle, on va te voir prochainement dans le coin, ou faut attendre le mois de mai?
Ouais, non, faut attendre le mois de mai pour les dates en Normandie. J'ai beaucoup de dates un peu partout en France, dans la francophonie, en Belgique, en Suisse, qui vont tomber encore. Mais là, pour le moment, Normandie, il n'y a que ça sur cette saison. Après, il y a des choses très très bien, très chouettes qui se profilent pour la saison prochaine 2023-2024 avec des cartes blanches, des grands concerts. Voilà, donc on prépare ça pour le moment.
Eh bien, on restera à l'affût, Ben. Okay. On va te laisser à tes tartines, parce que du coup, là, on discute, mais il n'y a plus de tartines, je suis sûr. Hein, le pain, il ne se grille pas tout seul.
Non, il n'y a plus de tartines, puis ça va être l'heure d'aller au collège.
Ah bah voilà. Bon, bah écoute, on va te laisser aller au collège alors. Nous, on te fait des bisous, Ben, hein, c'est comme ça. Les auditeurs, ils savent de toute façon qu'on t'aime bien, qu'on te connaît bien, et puis voilà quoi. Donc on te fait des bisous, Ben.
Merci, Principe Actif, des gros bisous.
À très bientôt.
Ouais, à bientôt. Ciao.
Et je vous l'avais dit en début d'interview, nous allons conclure cet échange avec le titre Chantier. Voilà, ça envoie, hein, le temps de le charger.
Parce que plus rien ne les étonne, parce qu'ils n'en ont plus rien à foutre, parce qu'ils en ont vu des automnes, parce qu'ils ont des yeux qui écoutent. De si jolis sourires troués, des nuits entières à se raconter, des jours soleil et des pluvieux. Ces vieux, parce qu'ils ont appris à se battre, parce qu'ils savent se taire quand il faut, parce qu'ils ont empilé les dates, des qualités dans leurs défauts, dans la grandeur de toute une vie, à garder fièrement le parvis. Des anecdotes en contentieux, c'est vieux. Mais le problème avec les vieux, c'est qu'ils partent plus vite que les autres. Le bout de la table est silencieux, c'est vrai. C'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils n'ont plus rien à dire, qu'ils en ont marre de radoter. Parce qu'il n'y a plus rien à construire sur le chantier de la beauté. C'est vieux. Parce que j'aime les bibliothèques, celles du vécu qui se partagent, les réussites après l'échec qui nous font gagner en courage. Parce qu'ils savent tout réparer, les moteurs et l'amour brisé, les au revoir et les adieux, c'est vieux. Parce qu'ils ont vraiment refait le monde, ailleurs qu'à l'apéro du soir. Parce qu'ils peuvent rester des secondes, les yeux perdus dans leur histoire. J'en ai couché des bouteilles, en perdant rien de leurs conseils. Ils savent bien que je ferai de mon mieux, c'est vieux. Mais le truc avec les vieux, c'est qu'ils se barrent et qu'ils nous laissent nous démerder là, au milieu, avec ce qui nous reste de jeunesse. C'est parce qu'ils n'ont plus rien à dire, qu'ils en ont marre de radoter. Parce qu'il n'y a plus rien à construire sur le chantier de la beauté. C'est vieux. Parce qu'ils ont l'expérience du geste, parce qu'ils ont l'expérience de tout, pour le meilleur et pour le reste. Quand ils disent rien, eux, ils disent tout. Ils disent pas que c'était mieux avant, mais quand même, tout fout le camp. Ils ont la soupe sans le cheveu, c'est vieux. Des présidents et leurs véroles, ils en ont connu toute une liste. Des qui tiennent jamais leurs paroles, qui ont fait d'eux des anarchistes. Je suis fier quand ils sont fiers de moi, quand ils m'appellent mon petit gars. Un petit gars qui n'a Dieu que pour eux, c'est vieux. S'ils avaient pas la sale manie de toujours trouver une excuse pour se faire la malle au paradis de la piraterie du cherche-muse, là où se retrouvent tous les vieux pour se raconter leurs trucs de vieux, la douleur et la joie profonde d'être libérés du poids du monde. C'est vieux. C'est vieux. C'est vieux.
Ben Herbert Larue avec le titre Le Chantier, extrait de l'album Souffle, sorti il y a quelques semaines à peine, voilà. Il y a tout un album à découvrir, disponible sur les plateformes, disponible à la sortie des concerts à travers le monde, comme il disait, parce que des dates dans la francophonie. Voilà, restez à l'affût, bien entendu. Nous sommes toujours avec Sophie Berger de l'association Trait d'Union. Nous parlons médiation familiale depuis tout à l'heure. Comment, quoi qu'est-ce on est quasi devenu un collab sur la médiation familiale, hein, Sophie. Là, c'est...
Vous l'êtes devenu.
Ah bon, nous le sommes devenus. On le disait tout à l'heure, en fait, il y a la comment on appelle ça, la je vais pas y arriver, prescription qui peut être faite par un tribunal, par la CAF, mais aussi la spontanément les gens qui peuvent se dire au bout d'un moment j'ai besoin d'avoir une médiation parce que ça bloque dans les relations petits-enfants grands-parents, ça bloque dans un foyer recomposé, ça pose problème sur les décisions,
ados.
Voilà, entre parents et ados, exactement. Voilà, en tout cas il y a toutes les formes, en fait, de conflits ou en tout cas de non-ententes de parties familiales peuvent solliciter une médiation familiale. Vous le disiez tout à l'heure, ça serait pas forcément en un tour. Hein, c'est non. Des fois, il y a du boulot à faire, il y a des démarches à avoir, il y a un cheminement à apporter. Ouais. Vous nous disiez, c'est 3-4 séances de manière générale, en moyenne. Hein, c'est voilà. Et le but du jeu, c'est il n'y a pas d'enjeu parce qu'en fait, c'est trouver un compromis. Donc finalement, on l'avance comme on a envie de l'avancer soi-même. C'est en fait les personnes qui viennent vous rencontrer qui
absolument.
Sont acteurs
oui.
Totalement. De cette médiation. Globalement, après une médiation, ça se passe mieux quand même en général. Comment ça se passe ou c'est la décision qui vient quand même réglementer le fonctionnement?
Ça dépend.
Ça dépend.
Il peut y avoir des accords qui ont été actés et pour autant la tension reste, hein. La tension reste. Et puis il peut y avoir de réels apaisements parce que les personnes veulent aboutir à quelque chose et découvrent beaucoup de choses de l'autre, hein, parce qu'ils ne s'en rendaient pas compte. Ils ne se rendaient pas compte des émotions, de la souffrance de l'autre. Ils sont enfermés dans leur propre souffrance, donc ils ont des difficultés à être ouverts à la souffrance de l'autre. Et quand ils viennent en médiation, ils peuvent être réceptifs.
On disait que c'était les enfants qui étaient souvent au cœur de la préoccupation de la médiation. Ils font partie aussi de la médiation, les enfants. Ils sont entendus, écoutés, ça discute avec les enfants, ça a un poids dans les décisions, dans les organisations, l'échange avec l'enfant.
Les postures sont très très différentes en fonction des médiateurs. Il y a des médiateurs qui vont entendre les enfants, ça peut arriver. D'autres médiateurs qui refusent parce qu'ils pensent que c'est pas une bonne chose. Parce que c'est le remettre, on est encore au cœur du conflit et de témoigner d'un conflit qui est très difficile pour eux.
Vous disiez, c'est justement le conflit de loyauté
finalement,
pour les enfants.
Absolument.
Quand ce sont les parents, j'aime papa, j'aime maman, pourquoi je devrais prendre position pour l'un ou pour l'autre?
Exactement.
Ou comment est-ce que je pourrais être plus d'un côté ou plus de l'autre? Finalement, c'est pas le rôle de l'enfant de trancher.
Pas du tout.
De trancher. C'est le juge qui tranche et l'enfant n'a pas à se positionner. Mais finalement, entre ce qui doit et ce qui officiellement est à faire, finalement, on se positionne tous on a tous un avis, les enfants aussi ont un avis.
Oui.
Finalement, le positionnement, même s'il n'est pas public, il l'est de fait, le positionnement de l'enfant notamment.
Les enfants sont très stratèges. Ils vont adopter l'attitude qu'ils pensent que les parents attendent d'eux. Hein, donc, ils ne vont pas se permettre de dire un certain nombre de choses au père ou à la mère, parce qu'ils pensent que ça ne va pas être une bonne chose. Donc, ils cherchent à réguler, hein, malgré eux. Hein, ils cherchent
c'est
à réguler
ça,
consciemment ou inconsciemment.
Ils régulent bien entendu. Le fonctionnement. Et,
oui,
et voilà ça. Finalement, ces médiations, c'est quelque chose de particulier, d'anecdotique dans le paysage, on va dire, parental, ou finalement c'est une pratique très commune, on y recourt régulièrement, voilà. Quand on n'a jamais eu affaire, finalement ça fait pas partie des choses dont on échange publiquement en disant, là aujourd'hui je prends une heure, je vais à ma médiation. Vous voyez, c'est pas forcément comme ça que c'est positionné. Donc finalement, c'est des sujets dont on n'entend pas forcément parler.
Pas forcément.
Est-ce que c'est quelque chose de commun, en fait, la médiation familiale?
Bah,
ou ça reste exceptionnel.
Alors, je dirais pas que c'est exceptionnel, mais il faut déjà la faire connaître, d'où ma présence ici, puisque la médiation, finalement, elle n'est pas si connue que ça. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'existence de la médiation familiale. Donc, il s'agit de la promouvoir et de se faire connaître, parce que, à part le juge qui va pouvoir prescrire, puis il y en a qui vont l'entendre par des proches qui ont eux-mêmes suivi la médiation familiale, mais sinon ils la connaissent pas. Ils ne connaissent pas l'existence de la médiation familiale.
C'est ça, si je ne connais pas, c'est difficile d'y avoir recours, effectivement. Et puis la CAF, on ne voit pas forcément toujours vers une médiation ou autre. Voilà, ça peut... elle peut être demandée, en fait, cette médiation. Voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Elle peut être demandée par tout le monde.
Oui.
On peut contacter, du coup, c'est possible, par exemple, quelqu'un qui appelle directement Trait d'Union en disant « voilà, je pense que ça pourrait être une bonne chose. Voilà, c'est pris en charge, c'est pas pris en charge. Comment ça se passe, en fait, tout simplement Est-ce que d'ailleurs, alors, tout le monde peut y aller? Est-ce que c'est pris en charge? Est-ce que ça fait partie d'un parcours? Est-ce que ça oblige à d'autres choses? Comment ça se passe?
Tout le monde peut y aller. Alors, la prise en charge me fait penser que l'entretien d'information, il est pris en charge financièrement, totalement par la CAF. Donc, c'est gratuit pour les personnes qui viennent. Et ensuite, chacun a une contribution financière en fonction de son revenu. C'est pour les personnes, par exemple, qui sont au RSA, la séance lui coûtera 2 euros.
D'accord.
Pour les personnes qui sont au SMIC, ça leur coûtera 5 euros. Et donc, chaque personne va contribuer financièrement pour chaque séance.
Il paraît que c'est important, au bout d'un moment, de au-delà de l'engagement de l'échange, d'engager autre chose, et notamment les moyens financiers, par exemple.
Bien sûr.
Ça fait partie de la chose, quoi.
Oui, absolument. 2 euros, c'est important pour la personne. C'est important, symboliquement, c'est important de pouvoir contribuer. Tout à fait.
Et donc là, il suffit de solliciter Trait d'Union.
Il suffit de solliciter Trait d'Union. Donc, ils vont être accueillis par l'assistante, la secrétaire de l'équipe, qui va poser des questions, essayer de qualifier un petit peu la demande de la personne et qui va le renseigner sur un petit peu ce que c'est que la médiation et l'orienter en fonction de la zone géographique. L'orientation.
Chez Trait d'Union, les médiateurs ont des spécificités, par exemple, je sais pas, de dire « Ah bah là, on est sur un rapport ado-grand-parent, c'est plutôt, c'est plutôt Sophie là, qui est au point là-dessus. » Enfin, est-ce qu'il y a des spécialités où finalement la médiation est une méthode et peu importe le sujet?
C'est une méthode. Et ensuite, chacun y met sa patte personnelle. Mais il y a une méthode, il y a un protocole qui est tout à fait suivi.
Ah oui, non, mais j'imagine qu'on s'improvise pas comme ça, médiateur.
Oui, il y a un protocole qui est suivi, donc on doit faire, les personnes doivent faire un entretien d'information, ça peut être un entretien commun ou un entretien individuel, et ensuite elles vont avoir un certain nombre de séances. Le nombre de séances, vous avez des médiateurs, moi par exemple, quand j'entends les différentes attentes, je peux dire aux parents, écoutez, en fonction de ce que vous attendez, ça nécessitera tant de séances. Moi, ce que je vous propose, c'est tant de séances, mais vous disposez. Après, vous êtes tout à fait libre de suspendre, si vous voulez, la médiation, parce que
ça a été
raison,
trop loin, parce qu'on n'avait pas envie, enfin, on n'a plus envie, ou ça va vers une mauvaise direction, de ce qu'on estime soi.
Les raisons peuvent être très diversifiées. Vous avez des personnes qui trouvent que c'est trop dense émotionnellement, par exemple. Moi, je peux pas, je n'y arrive pas. Ou d'autres qui se rendent compte que le médiateur ne va pas créer une alliance avec lui. Mais donc, ça ne va pas... Le correspondre à ses besoins, il n'arrive pas à s'entendre. Le médiateur ne peut rien faire si les personnes ne veulent pas aboutir à quelque chose. Ça dépend d'eux, on leur dit d'ailleurs. Ça dépend de vous. C'est vous
qui avez... C'est une méthode qui est proposée, mais finalement, les opérateurs, ceux qui font avancer les choses, c'est
le
public qui arrive.
Et d'ailleurs, vous avez des personnes qui vont déléguer la décision au juge.
D'accord,
c'est juste qui va trancher. Parce
on n'arrive pas à trancher
on
en médiation,
pas,
on a avancé sur certains points, mais c'est le juge qui va décider comment ça va se faire à la fin. Oui. Très bien, mais je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'était la médiation familiale, en tout cas celle qui est proposée par Trait d'Union. Je rappelle qu'il y a des structures, des antennes de Trait d'Union à Louviers, Trépanier, Les Andelys, Gisors, Vernon et Évreux. J'en ai pas oublié.
Non.
Voilà. Que finalement, cette médiation familiale, pour nos auditeurs sur Rouen, elle existe aussi, portée par d'autres structures. Voilà, mais elle peut être sollicitable. Et ce qu'on vient de se dire est sûrement vrai aussi pour ces autres votre structure. Merci beaucoup Sophie Berger d'être passée
merci
par nos micros pour échanger autour de ces questions-là.
Merci
à Ben Herbert Larue qu'on a eu également au téléphone tout à l'heure. Martine Bourg pour sa belle chronique de Bon Matin les Pingouins. Et puis, c'est déjà pas mal. Nous, on vous souhaite une bonne journée. On vous invite à rester bien entendu à l'écoute de nos programmes parce qu'ils sont cool en fait tout simplement. Restez à l'écoute de l'antenne d'HDR, restez à l'écoute de Principe Actif. Demain, Vinci, pour des raisons indépendantes de sa volonté, vous proposera une rediffusion. Mais vous allez voir, ça va être cool la rediffusion. Allez, bonne journée!